Voilà, donc nous allons accueillir Monsieur Arnold, Jacques Arnold, qui va nous parler donc du Razan, vecteur du champ synagogal. Alors, qui mieux que Jacques Arnold peut en parler, puisque lui-même est Razan, il est chantre, il est également rabbin honoraire, et il a été responsable, il est toujours responsable d'ailleurs, de la synagogue de la Fondation Rothschild à Paris dans le 12e. C'est en plus un artiste dans tous les sens du terme, non seulement au niveau du chant, mais il fabrique des vitraux d'une beauté splendide. Et il est un passionné de musique juive et il contribue régulièrement aux travaux de l'Institut européen des musiques juives en faisant un travail que nul autre que lui ou presque pourrait faire. C'est-à-dire, comme je vous expliquais, on a des documents que nous apportent régulièrement des personnes. Ça peut être des cassettes, ça peut être des documents sur lesquels il n'y a rien noté à part vaguement le nom de la personne. Et on a comme ça beaucoup d'offices ou de prière, et on ne connaît pas exactement ce qu'il y a dans la cassette. Et lui, patiemment, depuis maintenant, je crois, 4 ou 5 ans, je ne sais même plus, chaque semaine vient écouter une cassette et indiquer exactement toutes les prières, dans quelle tradition, avec quelle variante, enfin tout ça, ce qui nous permet après de pouvoir redonner vie à ces documents sonores sur lesquels rien n'est indiqué, qui deviendraient des fantômes. Donc c'est il ressuscite les voix et il essaye en tout cas. Donc je lui laisse la parole, Jacques Arnold, qui va vous parler du Razan, vecteur du chant synagogal.
Merci. Merci Hervé Rothen. Merci à tous d'être présents jusqu'à cette dernière intervention. Et tout particulièrement, je voudrais remercier Monsieur le maire et Madame Marie Rennes Renon de leur souci à notre égard, de leur dévouement pour que nous puissions jusqu'à maintenant être prêts et intervenir. Et j'étais tout à fait sensible ce matin et encore à l'instant à l'attention qui est portée à ce que nous développons devant vous. Je me disais en moi-même, de tels propos, de tels développements sur la musique, sur tout ce qui a été dit à l'instant, mériterait parfois dans certains milieux de notre propre communauté, mériterait d'être développé, parce qu'il y a bien souvent des choses comme celles que l'on a entendues ce matin et cet après-midi, que l'on ignore même parmi nos corréligionnaires. Et vous êtes donc là en ce sens des pionniers. Vous avez donc peut-être ouvert là une porte. Donc tous mes remerciements et pour votre accueil, pour avoir pu mettre au point sur pied cette journée. Comme les précédents intervenants, je ne vais pas ouvrir mon propos avec une vidéo, parce que si j'avais voulu ouvrir, je le terminerais avec, mais j'aurais, sans doute en voyant tout ce qui a été dit, j'aurais pensé à un dessin animé de Walt Disney, La Belle et le Clochard. C'était un plat de pâte, mais ça aurait pu être un enchevêtrement de laine et de fil, desquels on n'arriverait pas à se débrouiller, on n'arriverait pas à s'extraire, on n'arriverait pas à faire le tri. Et puis finalement, en terminant de tirer les morceaux que chacun d'entre nous aujourd'hui a essayé de mettre au clair, eh bien on arriverait finalement à un seul et même morceau. C'est la musique juive, mais chacun s'y serait pris de son côté et on arriverait, comme dans le film, à s'étonner, à être surpris de tenir finalement le même bout, le même tenant et le même aboutissant. Alors, ce ne sera pas la vidéo que je passerai, j'en passerai une à la fin. Je voudrais donc, après ces remerciements et cette rapide introduction, faire remarquer que le titre qui a été choisi, c'est le Razan en tant que vecteur du chant de la synagogue. On peut remarquer que le titre choisi est énoncé comme une affirmation, c'est-à-dire il est le vecteur, il faut le considérer comme tel. Il nous invite en fait à considérer la fonction de Razan au sein de la synagogue et à en souligner le lien profond qui s'établit grâce à lui, le Razan, entre la liturgie, c'est-à-dire l'ensemble des textes de prière d'une part, et les mélodies ou les intonations dont il se sert pour remplir son sacerdoce d'autre part. Notre démarche pour cet après-midi, va, avec le temps qui nous est imparti, va consister surtout à découvrir l'univers particulier du chant religieux juif interprété par le Razan, dans le sillage de ce qu'a dit M. Hector Sabot ce matin, et le caractère propre qu'il revêt. Je vais surtout peut-être me pencher sur la personnalité, sur le rôle du Razan en lui-même. Cela nous amènera aussi, bien sûr, à décrire cette personnalité et à en explorer les méandres de ce qui est, on peut le dire, une fonction un peu singulière dans l'ensemble des personnes qui interviennent dans la religion juive. Vous avez aussi bien celui qui procède à l'abattage rituel, vous avez le religieux qui, la personne de religion qui fait l'enseignement, le rabbin, je l'évoquerai dans un instant, vous avez toutes sortes de fonctions, l'enseignant, etc. Mais le chazan, c'est une personnalité très particulière. Pour mener ensemble cette investigation, il nous faudra survoler très rapidement, on le fera, les siècles de l'histoire juive, depuis l'époque biblique jusqu'à nos jours, et parcourir le monde juif, c'est-à-dire observer les communautés juives sous différentes latitudes, car ces deux facteurs que sont le temps historique et l'espace géographique de l'ensemble du monde juif nous permettront de définir au moins les contours du rôle prépondérant que joue le chazan dans la vie religieuse juive. Et nous parviendrons ainsi, je l'espère, à montrer en quoi il est réellement le vecteur, c'est-à-dire l'élément dynamique de la congrégation, de la communauté, capable de conduire, de mener les fidèles au-delà même du périmètre physique, spatial de la synagogue. Ce n'est pas le tout de dire « on est présent à la synagogue ». Ce n'est pas faire un acte de présence que d'être un fidèle d'une synagogue. Ce n'est pas de s'asseoir, d'occuper un siège et de se dire « voilà, j'étais présent, j'ai fait mon devoir ». Non, il faut y être d'une manière, il faut s'y sentir vraiment comme un élément actif, comme un élément qui ressent quelque chose. Et la prière est souvent comparée à l'échelle du rêve de Jacob. Elle permet une certaine élévation de l'homme vers Dieu, relier d'une certaine manière la terre au ciel, même si dans le judaïsme, on l'a vu il y a un instant, l'étude, elle aussi constitue un moyen de servir Dieu. Mais la prière, c'est une sorte d'outil qui, justement, permet d'émettre le son, permet d'émettre la parole, permet de la chanter et permet aussi d'écouter par le biais du chazan. On a ce double lien qui fonctionne. Pour faire une remarque d'ordre général, on a souvent dit que le violon est l'instrument préféré de ceux qui sont confrontés à l'errance ou à l'incertitude du lendemain. On a l'utilisation de cet instrument, bien entendu, parmi dans les populations juives, le violon, même dans le monde d'Afrique du Nord, le papa d'Enrico Macias était violoniste, n'est-ce pas? Donc, aussi bien dans le monde ashkénaz comme dans le monde séfarade, le violon était toujours un instrument, ou chez les tziganes, un instrument très, très prisé, parce qu'il peut facilement, on dit cela, parce qu'il peut facilement être emporté lorsque l'on plie bagage. Mais les chants dont on se souvient, les réminiscences de la berceuse maternelle, la chorale va en interpréter une tout à l'heure, la gravité du col nidré solennel entonné la veille du jour du grand pardon, ou bien que ce soit les hymnes de la soirée pascale célébrée en famille, ou encore le vibrant kaddish comme celui que vous avez entendu ce matin, je crois, en clip, en vidéo, par Rosenblatt, eux sont encore plus facilement transportables que le violon. Ils sont accrochés, ils sont enfouis dans le tréfonds de la mémoire. Seulement, il y a un risque. Il y a un risque pour le violon aussi. Il peut se perdre, il peut se détériorer. Et le peuple juif qui a connu bien des secousses au cours de son histoire, eh bien, ce peuple sait que le chaînon qui le relie à sa tradition est fragile. L'oubli, la perte d'identité culturelle ou religieuse, l'assimilation, le déracinement, le guette. Tout cela, ce sont des dangers qui sont, au travers de l'histoire, qui ont toujours été des dangers dont on a pris conscience et qu'il fallait à tout prix faire en sorte que l'on puisse le préserver. Donc ce déracinement, cette perte de substance guette chacun des membres du peuple juif. Paradoxalement, peut-être, plus que lorsqu'il se trouvait dans le ghetto, car quand on était dans le ghetto, justement, ce danger ne guettait pas. Ce danger était, comme on vivait refermé sur soi-même, eh bien, il y avait une préservation naturelle qui se faisait. Quand on se trouve hors, quand on se trouve dans la société environnante, dans un monde par lequel on a contact, eh bien, ce danger est plus grand. Et par conséquent, il faut se raccrocher à quelque chose. Or, justement, c'est au chazan qu'incombe, et cela depuis déjà des siècles, grâce à ses aptitudes vocales, son savoir, sa sensibilité, sa maîtrise, et en un mot, son art du chant synagogal, eh bien, il aura le soin de revivifier l'élan religieux qui parfois sommeille un peu chez les fidèles, et de cette manière, il en est un élément moteur, un élément qui va ressusciter en quelque sorte les sentiments, les souvenirs, toute l'âme musicale, tous les airs, tous les nigunim, toutes ces petites... Vous avez entendu tout à l'heure sur la vidéo du rabbi de Lubavitch, le nigun, hein, c'était pas grand-chose, c'était quelque chose de fredonné, mais c'est cela qui va réveiller, comme on pouvait le fredonner tout à l'heure, bom bom boy, n'est-ce pas, et cela suffit pour redonner une vigueur, une vitalité. Bon, le temps qui nous est imparti est limité, bien sûr, et grâce aux deux concerts de ce soir, vous aurez une illustration sonore et vivante qui complétera ce que je vais m'efforcer maintenant de développer devant vous. Dans un premier temps, et avant d'entrer dans le point suivant, je voudrais revenir un petit peu sur la configuration du monde juif, si l'on peut dire, le fonctionnement et le déroulement de l'office que le Chazan est chargé d'animer. Finalement, c'est un animateur, c'est un agitateur, comme on disait à la FNAC. C'est quelqu'un qui est là pour faire en sorte que l'ensemble des fidèles, la communauté, ne soit pas complètement apathique. Il est là pour donner une vigueur, pour donner quelque chose de plus. Alors, j'évoquerai très rapidement ce qu'est la synagogue. Selon la tradition, la synagogue en hébreu est appelée Bet Knesset. C'est la maison de l'assemblée. Il s'agit bien entendu de l'assemblée des fidèles. Et elle est qualifiée par nos sages de petit sanctuaire. Vous voyez encore le côté du sacré qui compte. Ce n'est pas un lieu de réunion, tout simplement là où on se retrouve les amis, les connaissances et les copains. Mais il y a dans la synagogue la notion de mikdash me'at, comme l'on dit en hébreu, c'est-à-dire de sanctuaire en réduction, depuis la destruction du temple, dont on a déjà évoqué l'événement qui remonte maintenant à deux millénaires, n'est-ce pas ? Eh bien, depuis ce temps-là, c'était déjà le cas lors de la première destruction du temple, lors de l'exil de Babylone, il fallait retrouver un endroit, et cela a été la synagogue, qui a donné la possibilité de se retrouver dans un milieu sacré, dans un endroit en réduction peut-être, en concentré de la sainteté du temple. Les éléments qu'elle contient, notamment l'arche sainte et la lampe éternelle qui est allumée au-dessus du pupitre de l'officiant, ainsi que son orientation vers Jérusalem, donnent à ce lieu un caractère sacré et digne, mais qui n'empêche pas pour autant l'épanouissement d'une dimension sociale, conviviale, communautaire, ce qui a toujours fait de la synagogue le pôle central de la vie juive. On y étudie, on y enseigne, on y fabrique aussi les pains azim, on en a retrouvé parfois les fours ou bien les outils, les ustensiles, on y héberge les hôtes de passage, on s'y occupe des indigents, tout cela dans le même périmètre. La synagogue a donc été inventée, si l'on peut dire, ou plutôt elle doit son existence à la suite de la destruction du temple, et la prière, qui est l'élément célébré tout particulièrement dans la synagogue, la prière remplace le culte des sacrifices. Il y a un verset qui redonne bien cette idée-là. Alors, on va passer... j'ai le zapper, voilà. Ça, c'est une vue de synagogue sur un manuscrit du Moyen-Âge. L'image précédente était une gravure d'Alphonse Lévy, qui est un peintre, on a parlé ce matin du Caruso juif, il est le daumier juif puisqu'il était un caricaturiste alsacien qui montrait la position de l'officiant devant son pupitre à la synagogue. Voilà encore une image du Moyen-Âge. Voilà. J'ai décrit donc très rapidement la synagogue. Je voulais également, ce matin, vous aviez une carte qui vous montrait les différentes communautés existantes. Il y a au sein de la synagogue, le besoin de faire en quelque sorte une distinction entre les différents rites qui peuvent exister. Monsieur Sabot a parlé ce matin du judaïsme ashkénaze. Il y a le judaïsme séfarade que j'ai mis sur la partie qui est à votre droite. Donc, ce sont des nuances, ce sont des sensibilités, des connotations différentes, tant sur le plan musical que sur le plan des coutumes, des habitudes qui sont liées au lieu que, dans lequel on habite, dans lequel on se trouve, c'est selon les latitudes. Alors j'ai, pour aller très vite, dans le monde ashkenaz, c'est la même distinction qui a été faite ce matin, je n'y reviens pas, j'ai pointé simplement d'une petite pastille les sensibilités, les branches que l'on a, que l'on peut trouver en France, surtout avant-guerre, certes, mais encore aujourd'hui, on a quelques communautés d'Europe orientale, russes, polonais, qui existent encore dans Paris et parfois en province, d'Europe centrale, comme le judaïsme hongrois, à Paris, je pourrais vous donner le nom des synagogues, qui préservent encore ces petites nuances de rite. Et vous avez le rite d'Alsace-Lorraine, qui est celui du consistoire, finalement, puisque, à partir de 1870, les communautés d'Alsace-Lorraine ont, pour beaucoup d'entre elles, émigré vers l'ouest de la France. Elles se sont posées soit à Reims, soit à Chalon-sur-Marne ou autre, et elles ont ainsi permis la création de différentes communautés, de même que la Suisse, qui est de l'autre côté du Rhin. Toutes ces communautés allemandes sont des communautés ashkenazes, et on l'a dit, elles ont, pour beaucoup d'entre elles, émigré aux États-Unis, en Amérique du Sud, ou en Amérique du Nord, en Afrique du Sud, à Johannesburg et dans toute l'Amérique du Sud, dans toute l'Afrique du Sud, pardon, il y a des communautés ashkenazes très importantes, et en Australie ainsi qu'en Nouvelle-Zélande. J'ai mis tout en bas l'Italie, parce qu'en Italie, il y a des petites communautés ashkenazes, surtout dans le nord de l'Italie. Au milieu, d'une certaine manière non classée, j'ai donné une date, c'est 1750, là, tout en haut, c'est le début de ce courant mystique, racidique, qui a commencé en Europe orientale avec les différentes racidoutes. Vous avez vu tout à l'heure les Lubavitch, mais il y en a des dizaines d'autres. Il y a, je ne vais pas les énumérer, les Satmar, il y a les Gours, il y a les Belts, toutes sortes de racidoutes. Ce sont des cours religieuses qui existaient en Europe orientale ou en Europe centrale et qui ont, pour la plupart d'entre elles, ne se trouvant plus, bien entendu, en Europe, ont émigré soit à Anvers, soit aux États-Unis, soit dans d'autres endroits, et en Israël tout particulièrement. Et l'une d'entre elles que nous connaissons le plus en France, c'est celle de Lubavitch. J'ai mis un triangle en dessous pour montrer encore un autre pôle de rite. C'est ce qui avait été tenté en Israël, c'est le Nusar Achid. C'est de trouver un rite qui soit unificateur. C'est pour ça que je l'ai mis au milieu. C'était un rite, mais qui quand même avait une tendance ashkenaze assez prononcée et dans laquelle nos coreligionnaires séfarades ne s'y sont pas toujours retrouvés. Et par conséquent, cela avait créé un mouvement de liturgie, de manière de célébrer les offices qui se voulait novateur, mais qui n'a pas eu, disons, beaucoup de suite. Il y a tous les judaïsmes séfarades, orientaux, Afrique du Nord, bien entendu, Égypte, Yémen et toutes les autres contrées. J'ai voulu noter deux particularités françaises. Elles sont ici en bas, le rite hispano-portugais et le rite contadin, qui sont des rites propres à notre pays, des communautés notamment de Bordeaux, Bayonne, mais pas seulement. Ce sont les Juifs qui venaient à la suite de l'expulsion des Juifs d'Espagne en 1492, qui se sont retrouvés dans le sud-ouest de la France, qui continuent encore, enfin on a encore une liturgie qui est à peu près maintenue dans ces communautés. Et il y avait des communautés hispano-portugaises, aussi bien à Amsterdam, à Londres, à Hambourg, à Hambourg, Londres, et évidemment aussi en Amérique, puisque nombreux parmi les réfugiés d'Espagne, à la suite de l'expulsion des Juifs d'Espagne, avaient trouvé refuge dans tous ces endroits. Voilà donc pour la diversité des rites. Mais il y a une autre diversité qu'on n'a peut-être pas. C'est la diapo suivante. Voilà. Il y a aussi une autre sensibilité à laquelle le chazan doit être, je dirais, formé, doit être, puisqu'on avait indiqué ce matin qu'un officiant, un chazan, pouvait aller d'une communauté à l'autre, d'un rite à l'autre. Il avait une possibilité de s'adapter. Mais il y a aussi dans le judaïsme différents courants religieux. On pourrait commencer en haut, vous voyez le rite ou les communautés qui sont réformées libérales. Cela a commencé, grosso modo, à la fin du XIXe siècle, lorsque les Juifs se trouvaient intégrés dans la société environnante, ils ont voulu un petit peu abandonner la tradition fermée et de cette manière, ils ont voulu changer le rite, déplacer les prières, les faire, si possible, dans la langue du pays, en allemand. Ça a commencé en Allemagne. Et puis ensuite, cela s'est exporté aux États-Unis. Et encore aujourd'hui, il y a de très nombreuses communautés réformées et libérales dont les chazanim, les officiants, utilise une liturgie très moderne qui a souvent été composée. Il y a l'Institut Milken qui, aux États-Unis, a pour charge de développer ce genre de composition. Et puis il y a le judaïsme conservateur, si vous voulez, qui correspond à peu près à notre judaïsme consistorial. Il y a le judaïsme massorti, qui est une autre tendance plus proche de la tradition. Donc nous sommes en France, pour la plupart des communautés consistoriales, c'est-à-dire qui suivons le rite synagogal répandu depuis l'institution même de ce grand ensemble consistorial du temps de Napoléon. Et puis il y a les communautés orthodoxes ainsi que les communautés chassidiques, comme on l'a vu tout à l'heure. Eh bien, toutes ces différentes tendances cohabitent. Ont parfois des moyens de s'échanger, de se côtoyer les unes les autres et de s'influencer plus encore les unes les autres. Voilà pour les communautés qui, vous le voyez, ne sont pas monolithiques. Il y a quand même différents courants, différentes manières d'être. Et je dirais qu'à chacun de ces cas, c'est-à-dire origine ou appartenance religieuse, c'est-à-dire plus ou moins orthodoxe, plus ou moins libéral, plus ou moins conservative, vous aurez des manières pour le chazan de s'adapter. Et vous voyez que le rôle du chazan, le rôle de l'officiant, c'est un rôle qui doit coller avec sa réalité communautaire. Il doit être le véritable interface entre les fidèles et, on va dire, pour aller très vite, la religion ou la prière. C'est lui qui va rendre les choses accessibles. C'est lui qui va rendre l'office non monotone, l'office qui ne soit pas lassant, l'office qui soit vivant, etc. C'est ça le rôle du chazan. Je vais maintenant très rapidement développer la fiche de poste, l'emploi du temps du chazan, les domaines dans lesquels il doit ou il peut intervenir. On pourrait peut-être le rétrécir. Il y a, j'ai mis 6 blocs au total. C'est là, je vais les reprendre. 6 blocs que sont, c'est pour vous faire d'une manière un peu schématique, ce que sont les offices auxquels il doit donner sa contribution, il doit faire en sorte que ça fonctionne. Donc ce sont les offices du rituel tels qu'ils ont lieu habituellement. Alors ils sont au nombre, ce sont les 4 colonnes de gauche, les plus fréquents évidemment. Ce sont les offices du soir, puisque dans le judaïsme, on commence la journée par la veille au soir, comme toute solennité. L'office du matin, l'office supplémentaire qui n'est récité, vous le voyez en haut, que le samedi et les jours de fête, ainsi que les premiers jours du mois. Donc un office supplémentaire qui n'intervient que dans les grands moments du calendrier. L'office de l'après-midi, qui est relativement court, et à chacun de ces offices, vous le voyez au milieu, la barre rouge qui est au milieu, c'est une prière qui se fait à voix basse, d'abord silencieuse, et qui est reprise pour l'office du matin, pour l'office supplémentaire des sabbats et jours de fête, et pour l'office de l'après-midi. Cette prière est reprise à voix haute par l'officiant. Et c'est dans cette prière, essentiellement, dans cette Amida, vous le voyez, c'est cette espèce de grand moment de l'office, c'est dans cette prière surtout que le chazan va exceller. C'est là qu'il doit être au top de son rôle, car c'est la prière la plus importante. Vous la voyez, elle revient à chaque fois. Elle est à chaque fois présente. Par conséquent, c'est en cela qu'on, je dirais, c'est là qu'on l'attend. C'est dans cette prière qu'il va avoir un rôle prépondérant. Vous le voyez également, il y a d'autres récitatifs. Il y a les lectures du texte cantilé qui ont été évoqués ce matin par Jean-Philippe Amard, qui ont lieu à l'office du matin et dans les offices de l'après-midi du samedi seulement. Donc ça, ce sont les choses normales, ordinaires. Et puis, le jour du Kippour, le jour du Grand Pardon, il y a un office supplémentaire, c'est l'avant-dernière colonne, avec là aussi une Amida qui est reprise, et qui est un office très intense, très fort. Et là aussi, on attend le rôle du Hazan, le rôle de l'officiant, parce que c'est le moment paroxysmal de cette journée de Kippour, dans la mesure où vont se clore les portes du pardon. C'est à ce moment-là que le soleil commence à se coucher et l'on va entendre le fait que le chauffard retentisse, la corne de bélier retentisse. Voilà à peu près l'emploi du temps ou la fiche de fonctionnement du Hazan. Il y a en plus des circonstances particulières dans la dernière colonne, mais ce sont des fêtes, ce sont des moments particuliers sur lesquels je ne voudrais pas trop m'attarder par manque de temps. Alors, ce titre est une affirmation, je le disais tout à l'heure. Il faut tout de même se poser la question au travers de tout ce qui, de tous les paramètres. Là, ce que je vous ai montré, ce sont essentiellement les paramètres, les prières qu'il doit dire, les différentes sensibilités communautaires, les différents rites. Eh bien, il faut savoir qu'est-ce que donc un Hazan. Si vous avez l'occasion de voir sur le YouTube, vous chercherez Hazan avec CH, car en général, les données sont avec c'est écrit CH comme dans la prononciation allemande. Vous verrez toutes sortes de choses, toutes sortes de célébrations qui sont très intéressantes. Je n'ai pas pu évidemment en reproduire beaucoup. Nous nous contenterons tout à l'heure de quelques exemples. Le Hazan, le rôle du Hazan, c'est le résultat d'une évolution. On sait que le chant de la synagogue trouve son origine dans les cérémoniales accomplies dans le temple de Jérusalem, je le disais tout à l'heure. Le texte biblique nous les relate. Le roi David s'exclame « Oh, l'honneur de Dieu, mon roi, en son sanctuaire. Les chanteurs précèdent les musiciens, puis viennent les jeunes filles avec les tambourins. » Bref, dans la Bible, il y a, je voudrais passer rapidement sur cela, il y a de très nombreuses références au fait que la musique, le chant, le chant du soliste, comme le chant des Lévis qui faisaient le cœur du temple, tout cela est très, très longuement évoqué. Je ne voudrais pas trop m'y attarder de trop, mais je voudrais montrer surtout le fait que le Hazan, c'est un envoyé de la communauté, c'est cela essentiellement que l'on peut voir en son rôle. Tout d'abord, le mot Hazan vient d'un terme hébraïque qui est le mot chazon. Chazon, Hazan, nous donne l'idée de ce qui est la vision. D'ailleurs, le premier mot du livre d'Isaïe, c'est Chazon Yeshayahu, vision du prophète Isaïe. Alors, comme M. Zavo le disait ce matin, au début, dans les premiers temps, dans les premiers siècles de notre ère, le Hazan, c'était une sorte de scrutateur, d'où ce nom. Le fait, c'est l'homme qui voit. C'est l'homme qui voit, comme le dit le Talmud, le Hazan, c'est une sorte de fonctionnaire qui supervisait et qui devait veiller au grain, qui devait avoir l'œil sur le bon déroulement et la conformité de certains gestes religieux, de la lecture des textes, de la pureté des vêtements, qui devait vérifier le bon ordre des choses. Par la suite, au cours des siècles, sa fonction a évolué. Il était juché sur une estrade, toujours dans la synagogue, bien sûr, et il devait veiller au bon déroulement de la prière publique et tout particulièrement à la lecture et à la conservation des rouleaux de la Torah, ainsi que leur mise en place. Il était chargé de l'appel des Kohanim, c'est-à-dire des prêtres, pour la bénédiction sacerdotale dans la synagogue, des descendants de la famille des Kohen, et il intervenait pour la récitation des additifs à la prière, ce que l'on appelle les piyutim qui ont été évoqués ce matin. Ces piyutim, ce sont, au cours des âges, au cours des siècles, la prière, dans son sens strict, a évolué. On y a ajouté, sous l'influence d'un grand poète qui s'appelait Eleazar HaKalir, on a introduit dans la structure de la prière des poésies. D'abord pour changer un peu le rythme, pour donner aussi un moyen aux fidèles de comprendre le sens profond de la prière, c'était des textes poétiques à la manière des mystiques qui ont été évoqués tout à l'heure. Seulement, ces textes poétiques qui étaient assez difficiles, difficiles à comprendre, eh bien, avaient besoin d'être chantés, interprétés pour les mettre à la portée des fidèles. Et si bien que cette tâche-là a été celle du chazan, du paitan. Et d'ailleurs, dans le monde séfarade, c'est-à-dire dans le monde oriental, le chazan est appelé paitan parce qu'il s'occupe précisément de ces poèmes liturgiques qu'il fallait organiser, qu'il fallait mettre à la portée des fidèles. Et c'est ce genre de discipline qui a incombé au départ, c'est-à-dire on est là au 8e, 9e, et on va arriver à l'époque des géonimes, c'est-à-dire à l'époque des sages qui ont été dans diverses communautés. À partir de cette époque des géonimes, on se trouve après la clôture du Talmud. On se trouve dans des siècles où déjà les communautés sont structurées, elles sont déjà individualisées. Eh bien, c'est le chazan qui va jouer ce rôle d'être l'animateur de la communauté, et il va être chargé par conséquent de réciter les textes, de les chanter et d'intervenir avec les fidèles, de les dynamiser, comme je le disais, d'une certaine manière. Dans les communautés orientales, dans les communautés séfarades, là, l'intégralité du texte est récitée ou chantée, c'est-à-dire, en général, le chazan récite toutes les choses de bout en bout, tandis que dans les communautés ashkénazes, il y a beaucoup de temps silencieux. Et c'est le chazan qui est là pour faire un rappel, pour redonner recréer le mouvement, si vous voulez, dans ces parties silencieuses, et lui prend uniquement à sa charge les moments forts, les textes qui sont les plus véhiculés. C'est d'ailleurs une différence que l'on voit quand on se rend dans une synagogue ashkénaze. On a un grand silence, on a souvent des silences, et tandis que dans une synagogue séfarade, où le rôle du chazan est d'ailleurs un tout petit peu moins prépondérant, eh bien, on a plutôt là le rôle des fidèles qui est plus marqué. Si l'on reprend un petit peu la chronologie des choses, je dirais que jusqu'au Xe siècle, on avait le chazan qui se cherchait un petit peu. Ce rôle n'était pas encore très, très, très bien précisé. Il va commencer à se préciser à partir du Moyen-Âge. Et puis, on va avoir le mouvement chassidique qui avait été évoqué tout à l'heure par M. Waknin. Le mouvement chassidique qui apparaît vers 1750, là on va avoir une redynamisation du chant liturgique, et puis ensuite on aura les grands compositeurs du 19e siècle, Lewandowski, Sulzer, etc. Et puis on aura en Europe donc une véritable éclosion, une véritable un âge d'or, on l'appelle l'âge d'or de la chazanout, c'est-à-dire l'âge d'or de l'art cantorial, qui va se marquer, qui va se faire remarquer tout particulièrement dans ce 19e siècle. Vous voyez que toutes ces notions qui traversent l'histoire, qui traversent les contrées, sont assez difficiles à cerner. On n'a pas d'éléments très concrets pour le faire. Je pourrais, à ce propos, quand on veut définir dans le judaïsme, Marc-Alain Waknin l'a bien fait avec les mots, avec les termes. Quand on s'y attarde, on peut découvrir des choses immenses, mais la plupart du temps on est un petit peu bloqué. Et comme nous sommes à l'approche de la fête du Nouvel An juif, qui tombe dans à peine une quinzaine de jours, et comme on le relevait ce matin, on se prépare à cette fête avec la sonnerie de la corne de bélier. Et même cette corne de bélier, quand on veut comprendre son sens, quand on veut comprendre sa symbolique, on a beaucoup de mal. Et en hébreu, on appelle cette corne de bélier, on l'appelle le shofar. Et il y a une petite une petite anecdote concernant le chauffard, c'est que on a pas toujours facilement le vocabulaire pour expliquer ce qu'est le chauffard. Donc, on est souvent bloqué, on dit corne de bélier, on dit trompe ou on dit chauffard tout simplement. C'est en fait un instrument qui nous rappelle la profondeur du son, la profondeur du chant. La première fois que le chauffard a retenti, c'était sur le mont Sinaï, où le don de la Torah, le don de la loi, s'est fait au son du chauffard, au son du tonnerre et des éclairs. Et je raconterai une anecdote qui montre la difficulté de définir, par laquelle on peut définir le chauffard. C'est celle du bedeau de la synagogue qui, ayant perdu le chauffard de la communauté, de la synagogue, le cherche désespérément et il ne le trouve pas. Alors il se rend au commissariat pour signaler sa perte dans l'espoir que quelqu'un l'ayant trouvé le restituerait. Et comme il faut remplir un document de déclaration de perte, le commissaire lui demande « Mais à quoi correspond ce chauffard dont vous parlez et qui ne peut pas inscrire sur le document ?» Alors, ce terme qui est un peu même ambigu en français, parce que chauffard, ça veut dire conducteur sur la route, le bedeau explique tant bien que mal comment on le sonne, et le commissaire lui dit « Alors, c'est un klaxon !»« Non, dit le bedeau, alors c'est une trompette !» Alors, il dit « inscrivez une trompette !» Le bedeau n'est pas convaincu, il dit « Bon, si vous voulez, je vais mettre trompette !» Et il signe au bas du document, et au moment de partir, le bedeau de la synagogue se ravise et retourne chez le commissaire. Il dit « Monsieur le commissaire, vous savez... un chauffard, c'est pas tellement une trompette. Un chauffard, c'est un chauffard. C'est-à-dire que dans notre terminologie, je dirais, un chazan, c'est un chazan. On ne peut pas facilement le décrire. Et qu'il faut, par conséquent, essayer de s'imaginer, de voir dans le contexte ce que exactement le chazan représente. Alors, je vais, par quelques... raccourci pour ne pas être trop long, je vais essayer de dire aussi en quoi consiste ce rôle du chazan. Je vous ai montré tout à l'heure le diagramme par lequel il y a les offices qui sont célébrés et qui sont à la charge du chazan, mais il y a aussi, on va voir le fond, si vous voulez, en quoi consiste la tâche du chazan. Il s'agit de mettre les paroles... le texte sacré en musique. Monsieur Amar nous a montré qu'un texte, pour être vraiment passé auprès des fidèles, a besoin d'avoir un rythme, a besoin d'avoir une couleur, a besoin d'avoir une certaine vie, d'une certaine manière. Eh bien, c'est cela que fait le chazan, c'est de mettre en adéquation avec les attentes de l'Assemblée, selon les modèles transmis et connus, ce qui peut être utile pour la prière. Alors, les chazanim se servent pour cela de petits modes, il en existe une dizaine, de modes musicaux qui sont transmis, qu'on a pu ensuite retrouver ou refaire sous forme de recueil, mais il y a des espèces de phrasés particuliers, traditionnels. On évoquait ce matin celui des jours austères, je l'avais relevé très rapidement, où il y a celui de telle ou telle fête, de tel ou tel moment, chaque moment a une couleur particulière et c'est au chazan de dire aux fidèles, nous sommes maintenant réunis pour tel office, pour l'office de la fête de Pentecôte, eh bien, nous allons avoir des intonations qui sont de cet ordre-là, qui sont de cette connotation-là. Et à chaque circonstance, il y a une connotation qui lui convient, qui lui correspond. Il y a également ce que l'on appelle dibour beshir, c'est-à-dire faire en sorte que soit révélé par la musique le sens caché et sous-jacent des termes. Tout à l'heure, je vous donnerai un exemple auditif de ce qu'est le fait que la musique puisse coller sur le sens du texte. Il y a une importance d'une transmission orale en se fondant sur la mémoire auditive et le talent de restitution que les fidèles peuvent avoir. C'est-à-dire, il y a une sorte d'attente qui fait que les différents moments de la prière sont marqués par une musique qui lui est appropriée. Il y a aussi la diction qui est importante. Il faut que les mots, on l'évoquait très rapidement ce matin, il faut que les mots fassent mouche dans l'oreille des fidèles. N'oublions pas que la langue parlée des Juifs dans la diaspora jusqu'à il y a 50 ans à peine, c'était soit le yiddish, comme on l'a dit, soit la langue du pays, soit un dialecte judéo-arabe pour les pays d'Afrique du Nord. Mais l'hébreu n'était pas toujours très bien connu, tout au moins par l'ensemble du peuple. L'hébreu était, c'était de l'hébreu, pour, même pour les Juifs. C'était souvent une langue qu'ils ne maîtrisaient pas, dont la lecture n'était pas toujours facile. Et on l'a vu ce matin, il y a les voyelles, il y a les lettres. Donc il fallait une grande attention, une grande, porter une très grande attention par le chazan, justement, au fait qu'il puisse avoir une diction impeccable pour que le fidèle suive, tout bêtement, et qu'il prononce le mot comme il faut le prononcer, car après tout, c'est une adresse à Dieu. Il ne faut pas dire du charabia, n'importe quoi. Et c'est comme ce conte racidique d'un homme qui, ne sachant pas lire, ne sachant pas l'hébreu, prononce l'alphabet constamment. Quelqu'un le voit et lui dit « Mais qu'est-ce que tu es en train de faire ?» Alors il lui dit « Bah, je lance les lettres en l'air, et puis le Saint béni soit-il les recueillera et il en fera les mots que je souhaite obtenir. » Mais ça, on ne peut pas le faire à tous les coups, ça ne marche pas à tous les coups. Il faut donc que le chazan soit le catalyseur, même plus que le catalyseur, il soit l'élément par lequel la langue hébraïque sera bel et bien respectée, sera bel et bien prononcée comme il se doit, et que cela serve d'exemple aux différents fidèles. Autre chose encore, il faut qu'il fasse le choix des lignes mélodiques spécifiques adaptées aux jours particuliers, je l'ai dit. Il faut qu'il utilise, chez les Juifs orientaux, c'est les makamim, c'est-à-dire ce sont des sortes d'échelles, de sortes de mélodies qui vont accompagner les différents versets, qui vont servir de fil conducteur pour que toujours, même souci, les fidèles s'y retrouvent, ils sachent exactement ce à quoi cela correspond. Il faut qu'ils veillent à la récitation alternée, aux interventions, qu'ils disent aux fidèles de répondre ou de ne pas répondre, de répéter ou de ne pas répéter, etc. etc. Il y a toutes sortes de moyens. Je voudrais en donner un seul qui peut-être va être plus éloquent que tout ce que l'on pourrait essayer de dire là-dessus. J'ai choisi, interprété par Moshe Koussevitzky, un extrait du psaume 93, dans lequel il est dit « Les fleuves font retentir, ô Éternel, les fleuves font retentir leur grondement, les fleuves élèvent leur fracas, plus puissant que le tumulte des eaux immenses, des puissantes vagues de la mer, plus puissant est l'Éternel dans les hauteurs. » Donc vous voyez que le psaume ici se sert de l'image, et je demande à Noam s'il peut nous envoyer le son, si c'est possible, donc de cette image des psaumes.
Mishberei
Voilà un exemple. Bien sûr, c'est une version orchestrale. Ce n'est pas tout Razan qui peut faire ses vocalises et parvenir à cela, mais ça vous donne l'idée, en tout cas, du texte qui colle à la mélodie et de la mélodie, ici c'est plus qu'une mélodie, c'est une véritable prouesse vocale qui permet d'illustrer ce psaume. Le rôle du Razan, donc, vous voyez, est multiple, il doit donner cette vigueur, cette intensité que vous avez, je l'espère, ressentie. Et je voulais, pour essayer de contourner ce rôle du Razan qui est important, donner un autre exemple du Razan Rosenblatt dont on a aujourd'hui beaucoup parlé. On a bien montré que dans cette grande communauté du Nouveau Monde qu'est l'Amérique, on a eu Koussevitzky à l'instant, Rosenblatt, on a eu de grands Razanim qui se sont succédés tout au long du XXe siècle. Et Rosenblatt a mis en musique une prière, et peut-être plus que tout long discours, cette prière qui se trouve dans le rituel du jour du grand pardon et que prononce le Razan. C'est très curieux, parce que dans d'autres spiritualités, on a rarement le fait que l'officiant se présente devant Dieu et devant les fidèles pour lui adresser à Dieu une prière par laquelle il se confie à lui. Cette prière, c'est « Ineni heoni mimas ». Je vais en lire, je n'avais pas trouvé de traduction, je l'ai traduite pour que vous en compreniez le sens et que finalement cette prière, qui est une espèce de sentiment éprouvé par celui qui prie pour toute la congrégation, eh bien, plus que tout autre discours, pendant qu'elle passe, sous la voix peut-être légèrement sourdine si on peut en technique, je vais en donner la traduction pour que l'on ressente ce qu'est exactement le rôle du Razan, plus que tout autre discours.
Nifad mi pachad yoshev tehilos yisrove.
Me voici, dépourvu de tout mérite, tremblant de peur, craignant celui qui est vénéré par la louange d'Israël. Je viens me présenter devant toi et implorer ta grâce en faveur de ton peuple Israël, qui me charge de cette mission, moi l'officiant. Bien que je ne sois pas apte et ne me sente pas à la hauteur de cette tâche, je te demande tout de même, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, ô Seigneur Dieu, miséricordieux et bienveillant, Dieu d'Israël, tout-puissant et redoutable, de faire en sorte que je réussisse dans cette démarche que j'entreprends pour moi comme pour ceux qui m'ont désigné. Ne répercute pas sur eux mes errements et ne leur inflige pas les conséquences de mon inconduite, car je suis faillible. Il ne faut pas qu'eux pâtissent de mes imperfections et réciproquement moi des leurs. Agrée ma supplication comme la prière émanant d'un homme d'âge mûr, sage et expérimenté, à la barbe fournie, doté d'une belle voix, juste et mélodieuse, en plein accord avec les fidèles. Répand ton courroux contre le mal afin de le rendre inopérant et que nous puissions te vouer l'amour infini qui t'est dû et que tu recouvres nos fautes avec indulgence. Alors, tous nos malheurs et nos souffrances feront place pour nous et pour tout Israël à la joie et à l'allégresse pour la vie et la paix. Alors, la vérité et la paix iront de pair. Fasse en sorte qu'aucune erreur ne survienne et n'altère ma prière. Que ta volonté soit réalisée, Seigneur, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, grand, puissant et redoutable, magnanime, qui sera celui qui serait. Fais en sorte que les messagers chargés d'acheminer ma prière jusqu'au trône de ta gloire l'y fassent parvenir. Cela sera fait au nom des justes, des hommes dévoués, des hommes droits et intègres, et en vertu de la gloire de ton grand nom. Car tu écoutes la voix de ton peuple Israël avec miséricorde, source de bénédiction est celui qui écoute la prière.
wir können uns können mir gut die Kowelei neuem da was mir über im Abrio.
Laissez Rosenblatt dans cette imploration, mais qui donne en résumé tout le sens de la prière et surtout du rôle du Chazan en ce jour-là où il est écouté par Dieu, il s'adresse à Dieu, mais il se dévoile devant ses fidèles pour aussi montrer la difficulté qu'il a, son véritable parcours du combattant qu'il est obligé de mener. Alors, pour terminer cette intervention, j'aurais voulu aussi évoquer le fait que les Chazanim, c'est-à-dire les officiants, au travers surtout de ces dernières années, de ces dernières décades, que ce soit dans le cinéma, dans les disques, dans les concerts, dans ce qui a trait au théâtre, ont eu un rôle, voilà des disques, des pochettes de disques, Koussevitzky, que vous avez entendu tout à l'heure, Moshe Stern, qui est une personnalité du monde de la Chazanout, un Chazan parisien, Armand Benamou, le Chazan qui a fait tout à l'heure les vocalises, Yitzhak Meir Elfgott, ici aux États-Unis, c'est lui qui a interprété ce morceau de Koussevitzky, et voilà le texte de la prière que vous venez d'entendre à l'instant, et voilà devant les murs de Jérusalem, devant les murs de la cité de David, et David le psalmiste, voilà comment cet art cantorial peut trouver encore une grande et vaste, un grand et vaste écho pour ce qu'il représente. Il y a de multiples facettes à cette fonction. J'ai voulu souligner le fait que le Chazan, c'est vraiment l'homme vers lequel les fidèles ont le plus grand contact. Un rabbin, c'est vrai, c'est un homme auquel on a beaucoup d'égards. Mais le Chazan, c'est l'homme de la proximité, c'est l'homme qui fait passer, c'est un passeur, comme on l'a dit tout à l'heure, qui fait passer les choses. Eh bien, non seulement les émotions, mais aussi les forts sentiments. J'ai promis une vidéo, la voici, elle dure 5 minutes, montre en main. Je la passe pour terminer cette intervention sur une note d'humour. Je vous propose un court-métrage qui va résumer tout ce qu'on a dit, je crois, sur les Chazanim, que ce soit de la part de M. Sabot et de ce que j'ai modestement voulu vous dire. Je vous prie d'être indulgent pour la qualité médiocre de la copie. Elle a été produite aux États-Unis en 1931. Et je remercie Stéphane Pirnet qui me l'avait fait découvrir il y a peu et Noam qui en a assuré la mise en page. Ce film résume bien des points que nous avons abordés. Il s'agit du recrutement d'un Chazan devant les administrateurs d'une synagogue, notables de la synagogue, qui sont plutôt burlesques et même clochemerlesques. Ces personnages sont sortis directement de la scène du théâtre yiddish, très en vogue à l'époque à New York, pour les immigrés juifs d'Europe. Le texte est en yiddish, le sous-titre est en anglais, mais il rentre que très pâlement le contenu, mais ce n'est pas grave, vous verrez l'essentiel. Mais en fait, ils sont très peu fidèles aux subtilités des dialogues. Deux candidats sont proposés, un pour chacun des deux clans de ce comité de sélection, et vous verrez siégeant à gauche et à droite, arbitrés par le président. Les candidats sont joués par le même Chazan, Leiba Levadman, il est déjà passé, bon d'accord, qui tantôt interprète de manière caricaturale un échantillon de ses capacités cantoriales à la manière d'un juif d'Europe de l'Est, un peu mystique et pleurnichard, excessif et maniéré. Il implore Dieu de manière dramatique, puis après lui se présente le deuxième candidat, rigide, froid et strict dans son allure, qui offre une démonstration de ses capacités à la manière des juifs allemands, les Yeke, comme on a dit ce matin. Aucun des deux ne convient. Chaque clan s'opposant à la partie adverse 50-50, ça passe pas. Alors arrive un autre administrateur qui apporte la solution miracle conforme aux temps actuels, surtout aux États-Unis, qui sera consensuel, et on verra le troisième candidat qui passe. Merci de votre attention. J'espère vous avoir éclairé aussi autant que possible.